Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on évoque ces hommes de l'ombre qui se cachent derrière une célébrité. Son nom à elle, c'est Céline Dion. Son nom à lui, René Angelil. Celui qui fut son producteur, son mentor et son mari. C'est l'heure, Mathieu, de votre portrait.
Oui, Stéphane, on connaît tous Céline Dion. On fait d'ailleurs plus que la connaître. Céline a atteint ce degré de notoriété qui fait qu'elle fait quasiment partie de nous, comme une cousine éloignée et très riche. On a tous chanté « My heart will go on » bourré au fond d'un club de karaoké miteux. Ah oui. Vous, moi, David, la tante de David quand son oncle s'est taillé avec sa secrétaire.
Ah bon ?
Oui, vous lui transmettrez mes amitiés. Ça n'allait pas très très fort à l'époque. Et on oublie trop souvent que derrière le phénomène Céline Dion, il y a un homme qui nous a quittés en 2016, un homme qui n'est pas que l'image tronquée que les médias et surtout les humoristes donnaient de lui sous prétexte que son nom, René, et encore plus prononcé à la québécoise, René, était ridicule et offrait aux imitateurs plus ou moins doués des boulevards d'humour grivois à base de « Viens là, René, prends-moi fort, balance le sirop d'érable ». Nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas là-dedans.
Vous êtes un
hypocrite. Car c'est un Québec loin des clichés que je vous propose de découvrir cet après-midi. René Angelil voit le jour en 1942 à Montréal. Comme tous les enfants du monde, son premier rêve n'est pas de devenir agent de star, mais star lui-même. Attiré par les sunlights du show business, il commence sa carrière en tant que chanteur dans le trio vocal canadien Les Baronets au début des années 60. Une époque assez compétitive pour les groupes, si vous vous souvenez. Résumé des forces en présence à l'époque, d'un côté les Beatles... De l'autre, eh ben, le groupe à René. Deux groupes chez qui le talent est, comment dire,
plus ou moins développé et protubérant.
Moi, j'aurais dit inégalement réparti. Finalement, l'histoire retiendra plus les Beatles que les Baronets. Le groupe se dissout en 72. René devient alors brièvement et heureusement acteur dans des films indépendants québécois. En 1971, il joue même dans une comédie érotique intitulée Après-ski. Il y a des choses dans la vie, Stéphane, qu'on n'a simplement pas envie de voir. Genre jamais. Tout en haut de cette liste, notre mère en guêpière, un coït entre un chien et un chat, plus petit, et René Angelil dans un film érotique, qui déclare, en tripotant une jeune skieuse...
J'ai envie de toi.
Ah, oh, Philippe.
Qu'est-ce que t'as ? Je te plais pas.
Non, René. Conscient des limites de son potentiel érotique, René bifurque rapidement vers une autre carrière, le management musical. Sa première star, c'est Ginette Reynaud. Et là, alors je décris la situation en studio, Olivier Pouls, aucune réaction, David Castello-Lopez me regarde. Et là, les yeux de Stéphane s'illuminent visiblement. Ginette Reynaud, ça vous parle, Stéphane ?
Bah oui, c'est toute mon époque.
Très bien, c'est toute votre époque. Eh bien, si à part vous, personne ne se souvient de Ginette Reynaud, eh bien, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même, car figurez-vous que c'est elle qui a rompu son contrat avec René, qui avait pourtant pour elle, je cite, le même plan de carrière que pour Céline.
Non, pas c'est vraiment merde.
Pour Ginette. Cependant, René n'a pas encore rencontré Céline. Et pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, il aggrave le seum. Il songe même à arrêter le métier. Un jour de 81, alors qu'il est à deux doigts de remplir le formulaire d'inscription pour un BEP de plombier chauffagiste, il reçoit par la poste une cassette audio. Une de plus. Échaudé par la dernière maquette qu'il a entendue. René relègue la cassette dans un tiroir. C'était ça son quotidien, recevoir des trucs comme
c'est
ça.
C'est vil.
Sans l'écouter. Il faudra toute l'insistance du frère de la petite Céline, Michel Dion, qui le harcèle téléphoniquement pour qu'il écoute enfin. « Ça va juste prendre 10 minutes et ces minutes pour échanger toute ta vie », lui dit ce bon Michel, qui avait raison. Pour René, c'est le choc. À côté de la voix de Céline, le timbre de Ginette Reynaud ressemble à celui d'un vieux caribou asthmatique. C'est, dit-il, potentiellement la plus belle voix du monde. Il va désormais la prendre en main et lui consacrer tout son temps. Il la rencontre quelques mois plus tard. Céline a donc 12 ans et un physique, disons, intéressant. Céline n'est pas moche, attention.
Elle n'a pas un physique facile, c'est différent.
Marie-Claire, journal féminin au tact sans égal, raconte à l'époque, l'homme d'affaires découvre alors une jeune fille toute timide, aux dents de travers, au nez un peu grossier, mais aux beaux yeux marrons quand même. Qu'importe cette dentition approximative, René mise tout sur Céline. Mais voilà, très vite, Céline prend conscience de ses sentiments pour son mentor. À 16 ans, à l'âge où les ados normalement constitués dorment sous un poster de Johnny Depp, elle s'endort avec une photo de René sous son oreiller. Les années passent, elle a 20 ans, lui 46. Elle lui dévoile enfin son amour à Paris. C'est beau, c'est romanesque, c'est fort. Mais elle se prend un gros vent. Il la repousse gentiment, elle est trop jeune. René décide de mettre de la distance entre elle et sa protégée en partant vivre à Las Vegas. Céline, elle, met à profit cet éloignement pour contacter Christina Cordula, 43 maçons et l'ancien staff de l'émission Déco une semaine pour tout changer. La rénovation de l'abbaye de Stéphane dans le Perche à côté, c'est un petit chantier. Mais le résultat est bluffant. C'est une femme sexy et sûre d'elle que René découvre à l'Eurovision en 88. Ce soir-là, Elle dit à des millions de téléspectateurs, mais surtout à René... Là, ça commence à devenir un peu plus proche de moi. Elle gagne le concours et en coulisses attrape littéralement la bouche de René, qu'elle convie dans sa chambre d'hôtel avec ces mots qui n'invitent pas à tergiverser. Si tu ne viens pas là, je vais frapper à ta porte. La messe est dite, René a résisté, mais elle l'a eu à l'usure. Joueur de poker invétéré, il décide alors de faire all-in sur sa pouliche. Sûr qu'elle va devenir une star, il va jusqu'à hypothéquer sa maison pour produire son premier album en 81. La suite, vous la connaissez, Céline va devenir au fil des albums la plus grande chanteuse du monde et l'influence de René à chaque étape de sa carrière sera décisive. Par exemple, en 97, quand elle dit non à la chanson d'un film qu'elle trouve, je cite, un peu pourrave, René lui dit « Si Céline, faut le faire, cette chanson c'est… » Et le film c'est Titanic. Les tournées mondiales s'enchaînent, un rythme effréné, René et Céline semblent plus épanouis, plus complices que jamais. Or, il y a bien dû avoir des tensions, des moments difficiles, Céline était parfois épuisée d'enchaîner les shows.
Non mais c'est vrai, il se rend pas compte que moi je suis à bout de force avec cette tournée-là. Non mais il m'envoie au turbin comme un vrai macro.
Le plus beau coup de René, c'est sans doute d'avoir réussi à combiner sa passion pour le poker et le plan de carrière de sa femme en lui faisant signer un contrat mirobolant pour un show quotidien au Caesars Palace de Las Vegas. 500 000 $ par soir, Stéphane. Vous qui pensiez avoir bien négocié avec Europe 1, à René, lui, c'était le cador de la négo. Hélas, le 14 janvier 2016, le cancer contre lequel il luttait depuis des années finit par l'emporter. Depuis, Céline, qui a viré un brin mystique, voit des signes de lui partout. Le plafond de la chambre à coucher est illuminé d'étoiles et ça nous rapproche de René. Ben, ça se trouve, c'est juste une trace d'humidité, sachant qu'il y a un jacuzzi à l'étage. Mais bon, si ça lui fait du bien, n'allons pas la contredire. Surtout que Céline est allée beaucoup plus loin dans le bizarre. Depuis 2017, elle ne monte pas sur scène avant de s'être recueillie devant un étrange mausolée qu'elle a fait installer en coulisses. Une tablette en bois où trône, tenez-vous bien, un moulage en latex de la main de René, avec cet écriteau un peu flippant « Knock on wood with René », soit « Touche du bois avec René ». Elle touche du bois, tape dans la main en latex et seulement après avoir effectué ce rituel, elle peut monter sur scène. Sachant qu'il y a peut-être d'autres parties de René qu'elle a fait reproduire, on peut s'interroger sur la nature du rituel qu'elle effectue avant d'aller au lit et avec quel type de moulage. On y soit qui mal y pense, une chose est sûre, Céline est persuadée de communiquer avec l'âme de René. Dernièrement, elle aurait même demandé conseil à un portrait de René, oui, un tableau représentant René, pour savoir si elle devait ou pas reprendre la chanson-titre de La Belle et la Bête. David, Olivier, vous souriez, mais... elle n'est pas la seule à entendre des voix, il faut croire que c'est l'apanage des plus grandes stars, comme on a pu le constater l'autre jour quand soudain, en plein enregistrement ici même, Stéphane s'est figé.
En fait, il s'agit de Henri Désiré Landru, accusé. Allô ? J'ai entendu quelqu'un me parler. J'ai l'impression d'avoir été Jeanne d'Arc.
Et oui, en tout cas Stéphane, si d'aventure je meurs avant vous, j'espère que vous ferez mouler ma main en latex et que vous l'effleurerez à chaque fois que vous rentrerez dans ce studio Coluche.
Oui, mais j'ai toutes les chances de partir avant vous, vu mon âge.
Grand Dieu non, grand Dieu non.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai, bon, donc il y a 1% de
oui,
faux.
Oui, et ben, je vous dirai pas le pourcent de faux, par contre, c'est absolument vrai qu'il a joué dans Après-ski, cette comédie érotique mythique.
Ah, c'est incroyable.
Tout en québécois, parce que là, déjà que le film érotique est ridicule en soi, mais en plus,
c'est québécois. Passionnant la vie de René.
Vous avez appris des choses, vous connaissez déjà l'histoire du moulage.
Oh, oui, mais.
Vous savez tout.
Mais vous me faites rire parce que votre récit est burlesque.
Ah, est burlesque. Merci Stéphane.
Europe 1, historiquement vôtre.